Allez, je voudrais vous évoquer aujourd'hui, après moult essais, je voudrais vous commenter, évoquer, plus qu'un commentaire, c'est plutôt une évocation de deux épîtres de Saint Paul. Le troisième chapitre, une partie du troisième chapitre de l'épître aux Colossiens et le cinquième chapitre de l'épître aux Galates. C'est plus une évocation qu'une analyse. Évocation parce que, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez probablement, bien que quelques nuits soient passées depuis, alors que je n'ai pas l'habitude de faire d'homélie ou de commentaires à la suite des agrypnies, pour une raison simple, que tout le monde, et moi le premier, ont envie de dormir. Et pour la fête de la Théophanie, je crois, j'ai dû faire une homélie pour la Théophanie, n'est-ce pas? Et ce jour-là, sans vouloir sonder et expliquer la nature divine, qui est insondable justement, je ne me serais pas permis de faire des investigations dans ce domaine, si je peux l'appeler ainsi, j'ai voulu essayer de vous le présenter en relation avec la fête qu'on célébrait ce jour-là, d'une manière que j'espère juste, mais j'aurais voulu faire comprendre quelle était la relation entre le Créateur et sa création. Pourquoi dans cette immense création, dans ces multiples créations divines, comment Dieu, pour que nous permettre de retrouver notre place dans ce que j'appelais l'harmonie, qui est sa gloire, il nous avait envoyé la deuxième personne de la Trinité pour que, à travers elle, on ait accès de nouveau à lui. Et il me semble, si je me souviens bien, avoir plus ou moins terminé en disant que notre vocation humaine et chrétienne, humaine tout simplement, mais enfin que vivent normalement les chrétiens, consistait à appréhender, à toucher le Christ dans sa nature humaine, afin de percevoir à travers sa nature humaine, sa nature divine. Et qu'il faut essayer, qu'il faut tendre, et c'est ça le but de la cèse et de la prière, qu'il faut tendre à connaître le Christ dans sa divinité. Je ne dis pas encore définir la divinité, mais appréhender, toucher la divinité, puisque nous sommes appelés à être les membres de son corps, étant membres de son corps, à participer ainsi à la nature qui est la sienne, qui est la nôtre en tant qu'homme, et qui est la sienne en tant que Dieu. Et nous sommes appelés à être divinisés. Et ceci n'est pas une vocation pour après notre mort seulement, mais on est appelé nécessairement à le vivre dès aujourd'hui, plus ou moins profondément, plus ou moins consciemment, mais c'est tout de même le but. Et cette participation de l'homme à la nature humaine du Christ, pour à travers elle connaître, participer à la nature divine, est le moyen et le but de toute notre ascèse et de toute notre, je mets des guillemets, notre morale chrétienne. Quand je parle dans ces termes-là de morale, je ne veux pas parler de la morale juridique, qu'on a le droit de ceci, on n'a pas le droit de faire cela. C'est pour des choses, des détails ou pour des choses importantes. La morale, c'est autre chose. La morale, la vraie morale, c'est la qualité de notre relation avec Dieu, avec le Père, dans le Fils et par la force du Saint-Esprit, et avec les autres qui sont nos frères et tous les autres sans exception. Je ne veux pas recommencer l'homélie de l'autre jour, mais j'étais obligé de la résumer comme ça pour en arriver à ces deux allusions aux épîtres de Saint Paul que je vous ai citées précédemment. Écoutez-les dans l'optique de ce que je viens de résumer. Frères, comme saints et bien-aimés de Dieu. Ça commence fort. Il nous appelle comme saints. Or, il n'y a qu'un seul qui soit saint, c'est Dieu. Et si Saint Paul nous appelle saints, ça veut dire qu'il a conscience que nous sommes déjà en communion en Christ avec le Père et l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous sommes saints, que nous sommes déjà, alors que c'est encore à accomplir, nous avons déjà accès à la sainteté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut dire, d'une certaine manière, qu'on peut connaître Dieu, non pas pour en faire des définitions, non pas pour le présenter, mais on peut communier à Dieu, on peut expérimenter qui est Dieu par participation. Ni vous ni moi n'arriverons, quels que soient nos efforts, à devenir du feu, même en se plongeant dans une fournaise. Cependant, l'expérience du feu, chacun peut l'avoir. Il s'agit d'approcher ses doigts d'une bougie, on se brûle, on participe au feu. En l'occurrence, c'est assez désagréable, mais c'est une participation. Et on peut y mettre le bras entier, la tête, le corps tout entier. On a une rien que la lumière du feu est une participation, une connaissance du feu. Ainsi, il en va de la nature de la nature divine, si je puis dire. Donc, Saint Paul nous appelle les saints, vous comme saints. Et il ajoute, et bien-aimés de Dieu. Faites attention à l'expression, bien-aimés de Dieu. Il reprend là l'expression du Père lui-même qui s'adressait au Fils au moment du baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est-à-dire que Saint Paul nous place sur le même plan que le Christ lui-même d'une manière en permanence, mais qui s'est manifesté tout particulièrement au moment du baptême. Excusez du peu, quand même. Ça vaut, il me semble, quand même un petit peu la peine de s'arrêter sur cette réalité et d'y participer, de la désirer, quelle que soit notre indigence personnelle. En voie de conséquence, Saint Paul ajoute, revêtez vos cœurs de tendresse et de bonté. Pourquoi? Est-ce que c'est de la morale, au sens que je niais tout à l'heure, ou est-ce que c'est parce que la nature même de Dieu étant la bonté et la miséricorde, Dieu est amour, Dieu est lumière, dira Saint Jean par ailleurs, c'est parce que justement Dieu est amour que nous devons nous revêtir nos cœurs, donc le plus profond de nous-mêmes, de cette tendresse et de cette bonté, pour être ressemblant, pour parvenir à la ressemblance divine, pour participer à sa vie, non pas par imitation, mais par communion, par osmose, avec lui. Le terme n'était pas tout à fait juste, mais par la réception de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire tendresse et bonté, et manifestez-nous aussi cette tendresse et cette bonté. Notez que saint Paul, jusqu'à présent, ne nous dit pas envers qui, pas uniquement envers notre prochain, il faut plus profondément, il faut être amour et bonté envers tout, envers toute la création. Saint Isaac le Syrien dira, même avec les animaux, et par ailleurs, saint Paul et Christ nous disent, même avec ses ennemis, c'est dire. Mais avec les plantes, il ne s'agit pas d'aller embrasser ses fleurs, voilà. Ce n'est pas une question d'affectivité, mais c'est une question d'entrer dans cette harmonie dont je parlais pour la fête, l'autre jour, l'harmonie que Dieu crée autour de lui, et dans l'immensité du cosmos, et pas simplement le cosmos astronomique, mais de toutes les créations qu'il suscite. Donc revêtez vos cœurs de tendresse et de bonté, de patience, de douceur et d'humilité. Ah, ça commence à devenir un petit peu dur, hein, parce que quand il faut avoir de la patience vis-à-vis des autres, et même quelquefois vis-à-vis de soi-même, c'est pas toujours simple. Et pourtant, c'est là l'essence de notre vie. C'est ça pourtant le but de notre christianisme. Si on n'a pas cette patience, cette douceur et cette humilité, nous ne sommes pas chrétiens, tout simplement. Nous ne sommes pas disciples du Christ. Nous ne sommes pas en communion avec le Père et l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous sommes des repoussoirs de la lumière plutôt que des miroirs de la lumière. Supportez-vous mutuellement, alors tu parles, et pourtant, tout ce que l'on apprend dans la morale chrétienne, cette fois-ci, le mode de cohabitation les uns avec les autres, et notamment ce que l'on est censé apprendre dans le mariage, et ce qu'on est censé apprendre aussi dans la vie monastique, c'est justement se supporter les uns les autres. Le supporter, ça ne veut pas dire « Ah, oh, qu'est-ce qui m'enquiquine, mais je suis bien obligé de le supporter. » Ça veut dire accepter l'autre tel qu'il est, quel qu'il soit. C'est une idée, c'est la base. Voilà pourquoi Guéranda, la base de notre vie. Voilà pourquoi Guéranda et Emilianos insistaient tellement sur le fait que s'il n'y a pas de charité entre nous, il n'y a pas de communion eucharistique possible. S'il n'y a pas de charité, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Donc nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Or la communion eucharistique, c'est une manifestation d'une communion déjà existante, déjà provoquée, suscitée par l'Esprit Saint, mais acceptée librement et mise en application. Donc l'amour fraternel avec tous, le support mutuel et le fondement, la base, le caractère élémentaire de toute vie faisant référence à Dieu. Si vous avez entre vous quelques différends, soyez prêts à pardonner. Il ne nous dit pas accepter le pardon des autres, mais vous pardonnez. Et si vous n'êtes pas, si on ne vous pardonne pas, qu'est-ce que ça peut faire? Le problème n'est pas là, c'est nous apprendre à pardonner. Et pourquoi? Parce que si effectivement la nature de Dieu est cette bonté et cette tendresse, cette bonté et cette tendresse ne peut pas supporter un différent, ne peut pas supporter une haine, une opposition, un enfermement sur soi qui fait que on ne voit plus l'autre, ou on repousse l'autre, ou comment dire, on se contemple soi-même. Ça, c'est l'anti-Dieu. Dieu, dans sa bonté, sa tendresse, se manifeste par cette profusion de création qu'il répand, pas dans le monde entier, mais au-delà du monde, dans tous les mondes, les anges, les archanges, les trônes des nations sont d'autres mondes. Pas simplement des entités qui seraient placées là pour notre, plus ou moins pour notre service. Et ces mondes-là apparaissent de temps en temps dans le nôtre aussi. Mais pour que nous les sentions, il faut que nous entrions dans ce monde de communion qui est un monde de bonté et de tendresse, pour reprendre les mots de saint Paul. Et pour nous encourager, saint Paul nous dit, non seulement, si vous avez quelques différends, soyez prêts à pardonner, mais il ajoute, puisque le Seigneur vous a pardonné. Comment il nous a pardonné? Il nous a pardonné pas simplement à cause de nos fautes morales pour lesquelles il serait venu sur terre supporter la tentation, sourire, mourir et ressusciter. Mais il nous a pardonné parce que nous, hommes, dans notre nature même, nous nous sommes opposés à Dieu. C'est ça le péché. Et nous avons tendance à, comme je disais juste tout de suite, à nous renfermer sur nous-mêmes pour nous couper des autres, pour faire notre volonté, pour faire notre plaisir, pour faire notre vie à l'exclusion de ces autres, alors que Dieu, lui, se donne au contraire. Dieu est donateur et nous sommes des captateurs. Et c'est ça notre péché. Appelez ça de l'égoïsme, ça s'appelle de l'égoïsme avec un autre vocabulaire. Et comment le Seigneur nous pardonne? Il nous pardonne en étant lui qui est bonté. Il vient s'incarner dans ce qui est l'opposé de la bonté, qui vient s'incarner dans ce qui est l'égoïsme. Non pas qu'il devienne égoïste lui-même, mais il vient dans cette chair, dans cette nature qui a été galvaudée par son égoïsme. Et c'est ça le pardon. Kismonei, après, effectivement, enfin, Kismonei, c'est pas le terme non plus, mais qui s'exprime à travers sa passion, sa résurrection, le pardon de nos fautes, je veux dire, de nos petites fautes. Il n'y a pas de petites et de grandes fautes. Mais je voudrais faire une distinction entre les péchés, des péchés de gourmandise et de jalousie et le péché qui est notre nature anti-Dieu. Vous comprenez ce que j'aurais essayé de vous faire comprendre. Et puisque le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. C'est-à-dire, ouvrez-vous. Ouvrez vos cœurs. Arrêtez de vous enfermer. Arrêtez de je ne voudrais pas être vulgaire, mais de vous regarder le nombril. Je ne veux pas dire qu'il faut regarder celui des autres, mais il faut regarder le cœur des autres. J'espère qu'il y en a qui effaceront. Il faut pénétrer dans le cœur des autres, non pas pour les juger, mais pour leur donner ce que nous avons et ce que nous sommes, pour nous oublier nous-mêmes. Puisque le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Par-dessus tout, oui, c'est ça, ayez la charité, ce lien qui vous tiendra parfaitement uni. C'est par cette abnégation de soi-même, par cette tendresse que l'on donne aux autres, tendresse, toujours pas d'ordre affectif, mais de don de soi, c'est ça qui nous rend parfaitement unis. Et que règne à cause de ça, que règne dans vos cœurs la paix divine. La paix divine, c'est quoi? C'est ce que j'expliquais l'autre jour. C'est cette harmonie dans laquelle Dieu nous plonge et qui est l'expression de sa gloire. Et dans cette harmonie, il faut que nous participions, que nous vibrions au même rythme, que nous rayonnions de la même manière. nous en tant qu'hommes, lui en tant que Dieu, mais que nous soyons à l'unisson les uns avec les autres, avec lui et en lui. Parce que vous avez été appelés pour former un seul corps. Nous avons une seule nature commune avec celui, avec Dieu qui a pris notre nature, avec le Christ qui a pris notre nature et qui nous permet ainsi de le connaître. Mais comment le connaître si ce n'est en étant de la même, en ayant la même expérience que lui. C'est comment on connaît quelque chose, c'est par communication, par communion profonde avec l'autre. Enfin, soyez toujours reconnaissants, c'est-à-dire rendez grâce en permanence. Si vous croyez vraiment que Dieu est véritablement bonté et tendresse, de quoi avons-nous peur? Nous avons des difficultés, nous sommes dans cette nature pécheresse, effectivement, qui s'oppose à Dieu. Mais où nous soucier? N'y a-t-il pas cette bonté divine, c'est-à-dire la nature même de Dieu, qui vient régénérer, comme le Christ l'a montré par sa résurrection, qui vient régénérer même ce qui était abîmé et sali dans notre nature. Et puis, parallèlement à ceci, le cinquième, une partie, quelques versets de la fin du chapitre 5, du chapitre 6 de l'épître aux Galates, frères, le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le don, nous avons reçu l'Esprit Saint, et ce qu'il nous apporte, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la mansuétude, la confiance dans les autres, pas la confiance en soi, mais la confiance dans les autres, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la suite, c'est pour ça que j'associe les deux épîtres en même temps, c'est-à-dire cette sortie de soi-même, cette volonté de cesser notre enfermement dans notre tour d'ivoire où moi j'ai raison, moi je sais, moi je veux, moi j'accomplis, moi je. On se crée un rempart autour de soi qui fait qu'on n'a pas de vision de ce qui nous dépasse, des autres, du reste du monde, et le monde n'a pas de regard, nous, on est enfermé. C'est infernal au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est diabolique, c'est l'anti-Dieu, ça. Vous voyez, la morale chrétienne ne sont pas des lois qui nous sont données pour vivre d'une certaine manière, c'est la nature même des choses. C'est comme ça que nous sommes conçus. Nous sommes conçus par Dieu comme des êtres de communion, et de communion en lui, avec lui, illuminés par lui, et devant rayonner en harmonie les uns avec les autres. Confiance dans les autres, douceur, tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent, ceux qui veulent faire un avec Jésus-Christ, ont crucifié la chair, c'est-à-dire la déchéance de notre nature humaine. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que nous sommes au-delà des passions, au-delà des désirs. Par notre chair, nous sommes enfouis, nous sommes immergés dans cette déchéance. Mais par notre cœur, par les cœurs, comme je disais tout à l'heure, de bonté, de mansuétude et de tendresse, par nos cœurs, c'est-à-dire par le fond de nous-mêmes, par le plus profond de notre volonté, on accède déjà à un autre niveau d'existence qui n'est plus le niveau de la chair, mais qui est le niveau de l'esprit. Un jour, il faudra que je vous fasse, que je vous parle un petit peu du corps du Christ et de nos corps, de notre nature. Il y a plusieurs, on a plusieurs corps, si je puis dire, le corps spirituel, le corps charnel. Mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. Et pourtant, c'est important. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la relation qu'il peut y avoir à Dieu, et on ne comprend pas notre propre conversion et notre transfiguration. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire si nous vivons non pas par nous-mêmes, mais par l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint que nous recevons, alors marchons aussi selon l'esprit. Si nous recevons la lumière, soyons des êtres de lumière. Si Dieu est bonté et que nous recevons Dieu, vivons nous aussi de la bonté. C'est-à-dire, sortons de nous-mêmes. Sortir de soi-même, c'est une extase qui aboutit, qui culmine dans l'extase qu'on peut appeler mystique, si vous voulez, de celui qui a complètement, qui a, avec l'Esprit Saint, a complètement vaincu la chair et qui est transfiguré. Mais ceci est à tous les niveaux, même celui qui commence sa conversion, même celui qui commence à se repentir ou qui essaie de se repentir, celui-là connaît déjà cette marche dans l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint. Mais encore est-il qu'il faille le vouloir, qu'il faille que ça descende, que ça vienne de notre cœur. Il faut vouloir sortir de soi-même. Si on ne veut pas sortir de soi-même, et si on veut s'enfermer, comme je vous dis de là, c'est infernal, c'est diabolique. Et on en tombe de plus en plus malade, même physiquement, parce que c'est contre notre nature. C'est conforme à notre nature déchue, mais c'est contre la nature dans laquelle Dieu nous a bâti, nous a créé. Et si on va contre la nature, on est déséquilibré, on est malade. Et la maladie se manifeste non seulement par notre mauvaise orientation, mais par les répercussions que ça a sur notre psychisme et sur notre corps. Et c'est comme ça qu'on expérimente toutes les maladies psychiques, quelles qu'elles soient, que je n'ai pas l'intention de vous décrire aujourd'hui, j'en serais bien incapable d'ailleurs, et comme les maladies corporelles, les maladies physiques, auxquelles on n'échappe pas. La preuve, c'est qu'un jour, tous, même si on est en bonne santé, il y a un jour où cette santé-là va disparaître, c'est le jour de notre mort. Ce qui montre bien que la mort est à l'œuvre. Mais la mort est à l'œuvre dans notre chair. Mais à l'intérieur, si on est orienté vers Dieu, si on vit selon l'Esprit, on est déjà dans la vie éternelle. On vit de la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de ressuscité, c'est aujourd'hui même qu'on la vit. Et c'est l'expérience que nous avons et que vous avez, humblement mais réellement, à la liturgie par exemple, et dans votre prière personnelle. La liturgie, c'est cette accession, même physiquement, en partie, à cette au-delà du temps et au-delà de l'espace, pour entrer dans cette harmonie. C'est pour ça que la liturgie doit être belle, et tout doit être beau à la liturgie. Parce que seule la beauté, la vraie beauté, peut être un reflet opaque, tant qu'on est sur terre, mais un reflet tout de même de la seule beauté, de la seule harmonie qui est la vie divine. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Vaine gloire, ça a deux significations. C'est la vaine gloire, c'est un peu l'orgueil, se pavaner, hein, ou se croire mieux qu'on est, ou parvenu à quelque chose, se glorifier en quelque sorte. Mais la vaine gloire, c'est plus essentiellement encore cette autosatisfaction, cet enfermement sur soi-même dont je parle aujourd'hui. La vaine gloire, c'est prendre notre nature telle qu'elle est aujourd'hui, la prendre comme le but de la vie, comme étant quelque chose de normal. Alors que le Christ lui-même a renoncé à sa vraie gloire, lui, en tant que Dieu, pour prendre notre nature déchue. Et nous qui sommes d'une nature déchue, nous qui sommes dans une vaine gloire, nous sommes appelés nécessairement à abandonner cette vaine gloire, à dépasser cette vaine gloire et à nous tourner vers une autre gloire qui n'est pas vaine, parce qu'elle n'est pas la nôtre, elle est la gloire de Dieu. Il y a un échange. Nous avons chanté ça sur plusieurs tons dans les offices de Noël et les offices des différentes manifestations du Christ, dans les fêtes qu'on vient d'achever là, il y a peu. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, c'est-à-dire en nous opposant, si vous voulez, hein, en nous portant envie les uns aux autres, c'est-à-dire en étant jaloux. C'est-à-dire encore, la jalousie, c'est quoi? C'est cette opposition à l'autre. Plutôt que de me réjouir pour ce que l'autre est, pour ce que l'autre fait, pour ce que les autres sont, je m'oppose à eux parce que moi, je voudrais autre chose. Moi, je voudrais les imiter. Moi, je voudrais... C'est toujours cet enfermement. Ces mots-là, ces deux éléments d'épîtres-là, sont vraiment le cœur même du mystère de notre union à Dieu et la révélation de qui nous sommes. C'est fondamental. Si on n'accomplit pas cela, je ne vous fais pas de loi, je n'amène pas des lois et des canons supplémentaires, si vous voulez, mais il faut avoir conscience que si ceci n'est pas inscrit dans nos cœurs, c'est-à-dire comme une volonté d'être accompli, nous ne sommes pas en communion avec Dieu, donc il n'y a pas de communion sacramentelle. C'est pas une punition, c'est pas une loi que je vous donne, je n'interdis pas de communier. Et si comme on fait toujours, notre péché, c'est justement de faire échec à ça en permanence, on ne communierait jamais les uns les autres, on est effectivement indigne. Mais dans cette indignité-là, notre cœur peut, notre chair, pécheresse, nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas, mais il faut encore que notre cœur, lui, veuille le bien qu'on n'arrive pas à faire, mais il faut le vouloir. Le tout est dans l'orientation intérieure. C'est pour ça que même si nous constatons que nous sommes indignes, nous pouvons quand même communier, si notre cœur est orienté comme ça, si notre cœur a la volonté de nous arracher à notre égoïsme et à notre vaine gloire, ça nous permet de communier pour recevoir la vie de la Sainte Trinité en nous, de manière à ce qu'elle nous aide, qu'elle nous éduque, qu'elle nous modifie, qu'elle nous restaure dans notre nature normale, celle dans laquelle Dieu nous avait créés. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai pas lu toutes les épîtres, enfin tous les passages. On va prendre tous les mots, mais j'aurais voulu vous faire prendre conscience que les fêtes que nous célébrons tout au long de l'année ne sont pas des événements isolés dans notre vie, mais qu'ils sont l'émergence, la partie émergée de l'iceberg de notre vie. Une partie de notre nature est noyée dans l'océan, je peux la dire, du péché, de notre égoïsme, dans ce que j'ai essayé de vous décrire négativement. Mais il y a une... Notre cœur doit vivre dans cette partie émergée, dans cette partie qui est de l'iceberg, qui est à l'air libre, et qui, lui, est rempli de lumière, est transparent, et vivant. Nos offices, notre prière, quelles que soient les distractions, quelles que soient les pensées, quelle que soit notre vie quotidienne, quelles que soient nos échecs, nos erreurs, sont normales. C'est cette partie immergée. C'est notre mode de vie actuel par la déchéance de notre nature. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous avons une autre face, une autre nature. Et le but, c'est que cette partie émergée, petit à petit, prenne la place du reste. Et que, je ne voudrais pas pousser la comparaison trop loin avec les icebergs, mais à force de fondre ce qu'il y a en dessous, il ne reste plus que ce qu'il y a au-dessus. C'est complètement faux d'ailleurs, techniquement, parce que avec les principes de flottaison. Mais j'essaie de mettre un certain absolu, si vous voulez. Voilà. Allez. Aimons-nous les uns les autres. Saint Jean l'évangéliste, à la fin de sa vie, ne répétait qu'une chose, aimez-vous. Non, aimez. C'est la seule chose qui reste, la seule chose qui soit essentielle dans notre vie, c'est aimer. Pas de l'amour affectif, mais c'est-à-dire du don de soi, de l'oubli de soi pour l'autre. Pour l'autre, c'est-à-dire pour les autres, mais pour l'autre, pour la nature, pour le cosmos, pour Dieu, pour les anges, pour les saints. Et si vous avez un tout petit peu en présence cette présentation que je vous fais aujourd'hui, si vous l'avez un tout petit peu présente à l'esprit, vous verrez que nos offices liturgiques, le psaume 103 au début des vêpres, les psaumes au début de l'orthros, et les textes tout au long des offices et de la liturgie ne font que de dire avec d'autres vocabulaires, avec un autre vocabulaire, de dire ce que je suis en train de vous exprimer, en le symbolisant un petit peu aujourd'hui, si vous voulez, ou en l'intellectualisant, je ne sais pas comment dire, pour essayer de le rendre accessible. Mais c'est notre expérience quotidienne et perpétuelle, et ça doit devenir perpétuel.